La première,
13h15, 14h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.
Du plus profond de la tranchée, nous élevons les mains vers vous, Seigneur. Ayez pitié de nous et de notre âme desséchée. Car plus encore que notre chair, notre âme est lasse et sans courage. Sur nous s'est abattu l'orage des eaux, de la flamme et du feu. Nous si privés d'espoir, la paix est toujours si lointaine que parfois nous savons à peine où se trouve notre devoir. Éclairez-nous dans ce marasme, réconfortez-nous et chassez l'angoisse des cœurs harassés. Ah, rendez-nous l'enthousiasme. L'auteur de ces mots, c'est Jean-Marc Bernard, le soldat a été tué le 9 juillet 1915 dans le nord de la France. La foi et les religions au cœur de la Grande Guerre s'étend ce début d'après-midi sur la première. Soyez les bienvenus dans Edu dans tout ça.
Le magazine des philosophies et des religions sur la première.
Xavier Boniface, vous êtes historien à l'université de Picardie, auteur du livre « Histoire religieuse de la Grande Guerre » et puis vous avez dirigé, avec la complicité de François Cochet, l'ouvrage collectif « Foi, religion et sacré dans la Grande Guerre ». Et cet émouvant témoignage que je vous lisais en ouverture est justement extrait de ce livre. Est-ce qu'ils sont nombreux, Xavier Boniface, les soldats à avoir fait appel à Dieu pendant la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'il existe beaucoup de témoignages de la sorte, des traces de religiosité dans des lettres, par exemple?
Alors, dans les lettres, il y a assez peu, finalement, de références à la religiosité ou à la religion ou à la foi des soldats. On peut le mesurer à des tas d'autres éléments. Par exemple, les archéologues aujourd'hui qui travaillent sur des corps de soldats de la Première Guerre mondiale peuvent découvrir des médailles pieuses ou des objets comme ça. Dans les musées, on retrouve aussi, les musées de la Grande Guerre, on retrouve aussi parfois des petits objets que portaient les soldats, des petits fanions ou des choses comme ça. Et on a aussi des témoignages indirects, par exemple, d'aumôniers militaires qui racontent la foi, la piété des soldats. Donc on a un regard extérieur, ce n'est pas nécessairement les soldats qui nous en parlent dans leur correspondance, sans doute parce que c'est au plus profond, plus intime à l'intérieur d'eux, et ils ne veulent peut-être pas non plus en faire part à leurs proches. Alors, ça arrive, bien entendu, c'est assez rare, mais on sait par d'autres éléments que la foi était très présente.
François Cochet utilise l'expression de béquille du combattant quand il évoque la foi pendant la Première Guerre mondiale. La foi était la béquille qui permettait de supporter l'insupportable, Xavier Boniface?
Alors c'était, je reprends l'expression de François Cochet, une des béquilles, puisqu'il en voit d'autres, comme le soutien de la famille, la correspondance, etc. Mais c'est un soutien effectivement majeur pour les soldats, et ça contribue à entretenir leur morale. Ils savent qu'ils peuvent se tourner vers une forme de transcendance, c'est ça qui, quelle que soit la forme prise par leur croyance, on verra que leurs croyances ne sont pas nécessairement des croyances telles qu'elles sont doctrinalement enseignées par une église en particulier, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus ample.
C'est un dieu protecteur qu'ils cherchent, le dieu du réconfort?
Ah, bien sûr, tout à fait. Alors c'est ou bien Dieu, ou bien, pour les catholiques, un ensemble de saints qui sont des intercesseurs, des intermédiaires entre eux et Dieu. Je pense en particulier à la Vierge Marie, dont la dévotion a repris très fortement depuis le milieu du 19e siècle. C'est en France, en Belgique aussi, en Angleterre, paradoxalement, Jeanne d'Arc. Et puis également Thérèse de Lisieux qui commence à être connue par son autobiographie, Histoire d'une âme, et qui se répand. Alors Thérèse de Lisieux, elle n'est pas encore reconnue sainte, l'Église catholique ne cherche pas spécialement à promouvoir cette dévotion, mais cette dévotion dépasse l'Église catholique et connaît un certain écho auprès des soldats. Mais principalement, c'est la recherche d'une protection, d'un soutien dans l'épreuve et face à la mort.
La mort qui guette, la peur qui est là, c'est aussi en quelque sorte une foi de la trouille qui s'exprime?
Alors, on peut le voir comme ça, mais je pense que ça va peut-être au-delà même. Alors, c'est vrai, on est à d'exemples qui vont dans ce sens-là. Par exemple, à la veille d'un assaut, d'une attaque, certains aumôniers racontent qu'ils ont plus de soldats qui viennent se confesser qu'habituellement. Dans les chapelles, il y a peut-être un peu plus de cierges déposés à ce moment-là. Effectivement, ça c'est un point important, mais peut-être aussi une manière de se rassurer et puis peut-être de se donner du courage pour justement surmonter cette trouille.
Est-ce qu'il y a eu clairement une évolution spirituelle liée à la Grande Guerre, un renforcement du religieux, Xavier Boniface?
Alors la question est très difficile à traiter parce que on a essentiellement des remarques d'aumôniers. Alors, au début, ils sont absolument enthousiastes sur le réveil religieux de l'été 14. Et puis après, on a des textes qui sont plus critiques vis-à-vis de l'évolution de la foi des soldats. Globalement, l'été 14, il y a un réveil religieux, ça c'est qui est attesté dans tous les pays, pour toutes les religions. Par la suite, ça s'étiole un peu dans les années qui suivent, avec des remontées ponctuelles en fonction des crises, des batailles importantes. Et puis, ce qui est peut-être encore plus difficile à mesurer, ce serait peut-être un troisième niveau, qui serait l'imprégnation sur le long terme de cette religion de la guerre et les traces qu'elles ont laissées, qui sont parfois très très difficiles à percevoir. Moi, j'en verrais une, mais est-ce que ça relève de la religion ou une attitude plus sociale et politique, c'est la diminution de l'anticléricalisme en France après la Première Guerre mondiale. Alors c'est vrai que c'est lié à la fréquentation d'aumôniers dans les tranchées, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une dimension de foi derrière? Et là, c'est très ténu. Et je pense qu'on a encore beaucoup à travailler pour essayer d'approfondir cette question.
Xavier Boniface, qu'est-ce que la religion promettait aux soldats qui partaient à la guerre? Le paradis?
Alors, il y a un grand débat, et notamment le cardinal Mercier se trouve confronté à ce grand débat. Est-ce que le soldat,
cardinal belge, dont la question nous parlerons plus largement tout à l'heure.
Voilà, le primat de Belgique. Le soldat qui meurt à la guerre est-il un martyr et a-t-il droit directement au paradis? Non pas parce qu'il meurt, mais parce qu'il meurt pour sa patrie et donc pour autrui. Alors, évidemment, en bonne théologie catholique classique, un martyr ne peut pas mourir les armes à la main. Différence du soldat qui meurt au combat avec des armes à la main. Mais globalement, certains ont tendance à penser que par les épreuves que le soldat a encourues sur le champ de bataille, par sa mort rédemptrice, quelque part, rédemptrice parce qu'il meurt pour son pays, pour sa patrie, qui est une patrie qui est exaltée, qui est sacralisée, et on a cette comparaison sur des tableaux, sur des discours, le soldat est un nouveau Christ, quelque part. Christ qui meurt sur la croix, mais le soldat, il limite, Christ qui meurt sur la croix pour sauver l'humanité, le soldat, quelque part, limite quand il meurt pour sauver son pays. Et certains ont tendance à dire, y compris dans l'Église catholique, d'éminents théologiens, que ces soldats, pratiquement, ont droit, même si ce n'est pas absolument sûr à 100%, ont droit au paradis. Et c'est la position notamment du cardinal Mercier et d'autres théologiens, y compris de prêtres qui sont engagés avec les soldats. En revanche, à Rome, cardinal Billot rappelle que la doctrine officielle de l'Église, ce n'est pas du tout ça. Il faut se confesser avant de mourir, il faut se convertir, et la mort sur le champ de bataille n'est absolument pas rédemptrice.
Comment est-ce que les religions sont entrées en guerre, Xavier Boniface?
Alors, très, très majoritairement, elles ont soutenu l'effort de guerre et le patriotisme exacerbé que l'on trouve partout. On voit même, alors pourtant ils étaient persécutés, les juifs de la zone de résidence de l'Empire russe, c'est-à-dire ils vivaient essentiellement en Pologne, dans les parties occidentales de l'Empire russe, des juifs russes défilaient avec des portraits du tsar. Pour montrer leur fidélité à leur pays qui est en guerre contre les Allemands. Partout, sans aller nécessairement jusqu'à une bénédiction des canons, on trouve aussi des évêques ou des prêtres qui vont bénir les soldats qui partent et leurs armes. Il y a un soutien très massif des églises, des religions instituées en faveur de la guerre. On a vraiment là le sentiment que le patriotisme l'emporte sur tout autre sentiment et que l'Église apporte un peu ça. Les Églises apportent leur dimension de sacralité à la guerre qui commence.
Et comment est-ce que concrètement les religions justifiaient la guerre comme étant une sorte d'exercice au service de Dieu ou simplement, comme vous le disiez, un service rendu à la patrie?
Alors, il y a cette dimension du service à la patrie, ça, je veux dire, c'est le premier niveau. Après, il y a un petit peu le niveau théologique de justification de la guerre. Prendre l'exemple des chrétiens, alors que ce soit les protestants ou les catholiques, on trouve des points convergents. On se bat pour défendre le droit, la civilisation. Alors, ce sont des thèmes qui sont repris par la propagande civile laïque, mais qu'on décline aussi sous l'angle religieux. Et puis, chez les catholiques, il y a aussi cette conviction que c'est Dieu qui a voulu la guerre pour éprouver les nations qui ont péché. Alors, les nations qui ont péché, c'est qu'elles avaient adopté des lois anticlérical, et que par la guerre, Dieu amenait ces nations à la rédemption, à leur salut. Alors, ce discours n'est pas toujours bien accepté, bien évidemment, mais c'est une des dimensions d'explication de la guerre. Et puis, comme on se réfère aussi à la doctrine traditionnelle de la guerre juste, en France et en Belgique, encore plus en Belgique peut-être, la notion de guerre juste, qui renvoie à la théologie de saint Thomas d'Aquin, et qui dit que toute guerre défensive est une guerre juste. Or, comme la Belgique, la France aussi, ont été attaquées par l'Allemagne, leur guerre est nécessairement juste. Cela dit, les Allemands ont réussi à retourner la chose en disant que, comme ils étaient menacés par la France et la Russie, le fait d'avoir attaqué fait qu'ils étaient quand même dans une démarche juste et légitime. Et on interprète les événements de telle manière qu'à chaque fois, on essaie de trouver un fondement, rajouter un fondement religieux aux justifications de la guerre. Ce qui fait qu'on sacralise la guerre aussi. On la sacralise de cette manière.
Notons que la boucle de ceinturon de l'armée allemande portait la mention « Gott mit uns », « Dieu avec nous ». Trois mots fort commentés, Xavier Boniface.
On aurait pu l'appliquer à peu près à toutes les armées d'Europe à l'époque. Le « Gott mit uns », c'est une devise qui date du milieu du XIXe siècle, mais dans tous les pays, en France, en Belgique, les soldats croyants disent aussi « Dieu est avec nous ». Chacun est convaincu que Dieu soutient la cause de son pays.
Mais il est avec qui alors Dieu?
Alors là, ça, c'est la grande question. Si on interrogeait le pape à l'époque, il est avec tout le monde et avec personne. C'est-à-dire qu'il ne soutient aucun camp en particulier. En fait, il y a une espèce de nationalisation de Dieu par les pays belligérants. Chacun fait de Dieu le Dieu de son pays. Et c'est là où on voit le triomphe du nationalisme sur tout autre sentiment. On a une convergence extrême entre le nationalisme et la foi en Dieu, entre la foi en la patrie et la foi en Dieu. Et si on pousse la réflexion un peu au-delà, d'un point de vue catholique, ça pose, et chrétien de manière générale, ça pose un problème. Ça veut dire que la patrie est mise au même rang que Dieu, ce qui, alors, pour les théologies, la théologie traditionnelle, l'Église catholique n'a pas ce discours officiellement à l'époque, mais pour les doctrines théologiques traditionnelles, ça a quand même un paradoxe où, en fait, la patrie est rehaussée jusqu'au niveau de Dieu, et Dieu, qui est au-dessus de tout, est rabaissé au niveau de la patrie. On verra après la guerre, d'ailleurs, le pape Pie XI dénoncer ce nationalisme excessif.
Les Allemands étaient essentiellement protestants, les Belges et les Français catholiques. Est-ce qu'il y avait, lors de cette grande guerre, des spécificités d'une guerre de religion, Xavier Boniface? La question a été régulièrement posée.
Alors, on a essayé de présenter ce conflit comme une guerre de religion, mais ce n'est pas le plus important ni le plus développé. Déjà parce qu'il y a en Allemagne un tiers, à peu près 30% de catholiques. Donc ça pose quand même des problèmes. En France, on a essayé de tenir un petit peu, certains, notamment catholiques, ont essayé de tenir un peu ce discours d'une croisade contre le pays de Luther. Mais ça posait des problèmes en termes d'union sacrée, parce que les protestants français ne voulaient pas être assimilés à la religion de l'ennemi. Puis deuxièmement, à partir de 1917, les États-Unis entrent dans la guerre aux côtés des alliés, et les États-Unis sont une grande puissance protestante. Donc ce discours anti-protestant de la part des catholiques va très vite s'estomper en 14, même si on trouve de temps en temps quelques résurgences ponctuelles, mais il va très vite se résorber. Alors sur la notion de guerre de religion, on pourrait élargir un peu l'expression ou le sens de cette expression en disant que c'est pas une religion contre une autre. Mais c'est une guerre qui utilise aussi des arguments religieux, enfin les belligérants utilisent aussi des arguments religieux pour justifier la guerre. C'est là où on pourrait parler d'une guerre à dimension religieuse, même si elle n'est pas une guerre de religion.
Et Dieu dans tout ça.
13h15, 14h le dimanche,
sur la première.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini. C'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit les
C'est un extrait de la chanson de Craon, un hymne antimilitariste créé et chanté pendant la Grande Guerre. De la place de la religion pendant la Première Guerre mondiale, nous en parlons ce dimanche avec l'historien Xavier Boniface qui est notre invité. Dites-nous, Xavier Boniface, est-ce que des chants religieux ont accompagné cette Grande Guerre ?
Dans les soldats recevaient, alors pas tous, mais ceux qui le souhaitaient, recevaient de leurs aumôniers des petits recueils de prières qui comportaient toujours des chants religieux et qui étaient utilisés pour les cérémonies religieuses. Donc on peut dire de ce point de vue-là que des hymnes accompagnaient les soldats, et y compris alors, des hymnes indirectement liés à la guerre. On ne fait pas nécessairement toujours pleinement allusion à la guerre dans ces hymnes, mais il y a des hymnes à Jeanne d'Arc, par exemple, et héroïne de la patrie, défenseur de la patrie, etc., qu'on retrouve des thématiques guerrières indirectement dans ces chants.
Ce qu'il faut souligner aussi, Xavier Boniface, c'est que en France, en Belgique, puis en Italie aussi, je crois, les membres des clergés sont mobilisés comme tous les hommes de leur âge. J'imagine qu'avec leur soutane, ils sont vite repérés. Comment sont-ils accueillis ?
Alors, en 1914, lorsqu'ils sont appelés sous les drapeaux, ils sont mobilisés, ils arrivent dans leur caserne en soutane. Bon, et comme c'est le temps fort de l'Union sacrée, ils sont très bien accueillis. On raconte même en France que des membres des congrégations religieuses qui étaient partis en exil au début du siècle dans tous les pays d'Europe, voire outre-mer, reviennent massivement en France et ils sont acclamés parce que on voit vraiment l'union de tous dans le service de la guerre. Après, eh bien, ces prêtres, ces séminaristes, alors en Belgique, ce sont surtout des séminaristes qui sont mobilisés, mais ils sont en tenue militaire, ils portent un uniforme, à l'exception des aumôniers qui, eux, restent en soutane. Tous les prêtres mobilisés, sauf les quelques centaines d'aumôniers, sont des soldats parmi d'autres. Alors, plus généralement affectés dans le service de santé, mais ce n'est pas non plus systématique.
Il y a le futur pape Jean XXIII, qui est enrôlé comme infirmier en 1915.
Tout à fait, tout à fait. Ouais, il va passer assez rapidement ensuite comme aumônier, mais il a été mobilisé comme aumônier. J'ai même vu son livret militaire.
Bon, parlons maintenant, si vous le voulez bien, du pape Benoît XV. Il est entré en fonction en septembre 1914, quelques semaines après le début de la guerre. Il va proclamer la neutralité, appeler au silence des armes, ce qui ne va pas plaire. Hein. Benoît XV est un pape détesté. Qu'est-ce qui lui est concrètement reproché, Xavier Boniface ?
Alors, il défend en fait une double position du Saint-Siège. La neutralité, c'est-à-dire que le Saint-Siège ne rejoint aucune des deux grandes alliances qui s'affrontent, et l'impartialité. L'impartialité, c'est-à-dire qu'il ne choisit même pas son camp. On peut être neutre et puis avoir des sympathies pour l'un ou l'autre des camps. Dans le cas du Saint-Siège et de Benoît XV en particulier, il refuse de choisir et il veut considérer chacun à égalité. Et ça, ça lui est reproché, parce qu'on est dans une guerre totale où il s'agit d'éliminer l'autre, l'adversaire, et que si on ne choisit pas son camp, on est évidemment associé au camp adverse, qui n'est pas avec moi et contre moi. Et c'est la raison principale pour laquelle Benoît XV est de plus en plus détesté au cours de la guerre. Alors chacun essaie évidemment de l'attirer à lui, de justifier son point de vue. Alors les Belges, ils vont avoir une légation à Rome, et surtout l'entremise du cardinal Mercier, qui se rend plusieurs fois à Rome, où il essaie de défendre le point de vue de la Belgique. La Belgique est occupée auprès du pape et de ses services, auprès de la curie romaine.
Le cardinal Mercier, hein, grande figure centrale de cette grande guerre, primat de Belgique. À l'époque, il va écrire la lettre pastorale Patriotisme et Endurance, un texte distribué dès le début de l'année 1915. Texte majeur. Que disait cette lettre, Xavier Boniface?
Le cardinal Mercier demandait à ne pas se résigner à l'occupation, que les Belges devaient être fiers d'être Belges et qu'ils devaient fonder leur espérance sur la foi catholique. Et alors, même s'il n'appelle pas officiellement à la résistance, en fait, c'est tout le sens de son texte. Hein. Il faut tenir le coup, c'est l'endurance. Il faut rester fidèle à sa patrie au nom de sa foi. Et c'est un peu le cœur de cette lettre pastorale de Noël 1914, qui a eu une énorme diffusion. Or, en Belgique, certes, malgré la censure allemande, mm-hmm. et dans toute l'entente, c'est-à-dire toute l'alliance autour de la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie. Enfin, l'Italie n'était pas encore entrée en guerre. Et du coup, aujourd'hui, on trouve des rues du cardinal Mercier dans des villes qui ont été reconstruites sur l'ancienne ligne de front. Il y a toujours une rue du cardinal Mercier. Ça montre vraiment l'aura qu'il a dans les pays de l'entente. Mmh.
Nous avons essentiellement évoqué le cas des catholiques et des protestants. Quelques mots maintenant sur l'islam. Des soldats de confession musulmane ont participé à la Grande Guerre. Comment était perçue leur religion, Xavier Boniface ?
Alors, un petit point rapide sur déjà quelles sont les armées qui emploient des soldats musulmans. Mmh. C'est essentiellement en Europe, la France, la Grande-Bretagne, un tout petit peu au début de la guerre, et ensuite les troupes musulmanes sont plutôt impliquées dans des champs, des théâtres d'opérations périphériques. Il y a quelques contingents bosniaques dans l'armée austro-hongroise. Et puis il y a aussi sans doute quelques soldats musulmans dans l'armée russe. Et il y a évidemment l'armée ottomane. Alors l'islam n'est pas inconnu évidemment dans ces armées. Dès avant la guerre, on a